Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Sophie Tussaud.
Des mesures fortes doivent être prises en urgence. J'ai décidé de mettre en place un confinement de 5h à 18h, renforcé d'un couvre-feu strict de 18h à 5h.
La situation sanitaire se dégrade fortement sur l'île de la Réunion. Elle enregistre une flambée des cas de contamination. Pour freiner la propagation du virus, le préfet décide un confinement partiel pour 15 jours. La délinquance a explosé cette année sur les 6 premiers mois, notamment les violences sexuelles et les faits d'escroquerie, décryptage à suivre. Plusieurs centaines de sans-abri installés sous des tentes, place des Vosges, à Paris, une action du collectif Réquisition pour demander à l'État des solutions d'hébergement dignes et pérennes. À Tokyo, la France continue sa moisson, 3 nouvelles médailles aujourd'hui, 3 en argent, beaucoup de joie et un peu de déception. La tendance météo est ça va se dégrader, nous dira Marlène Duré en fin de journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les départements d'outre-mer subissent actuellement une flambée des cas de contamination après la Martinique. Hier, c'est l'île de la Réunion qui prend de nouvelles mesures pour stopper la progression de l'épidémie de Covid-19. Un confinement partiel en journée a été décidé à partir de demain et pour 15 jours. Une première depuis le confinement du printemps 2020. Des mesures d'urgence car la récente arrivée du variant Delta a provoqué la saturation des services de réanimation sur l'île. La population est également 2 fois moins vaccinée qu'au niveau national. Il fallait réagir, explique Jacques Billan, le préfet de la Réunion.
Depuis le début de la semaine, j'ai consulté la communauté médicale et les acteurs socio-économiques. Un constat fait l'unanimité. Des mesures fortes doivent être prises en urgence. En liaison permanente avec le gouvernement, j'ai décidé de mettre en place les mesures suivantes dès ce week-end. Mise en place d'un confinement de 5h à 18h, renforcé d'un couvre-feu strict de 18h à 5h. Les déplacements se limiteront à un rayon de 10 km autour de son domicile. Ce rayon sera abaissé à 5 km. Le dimanche, j'ai conscience des difficultés que ces nouvelles mesures vont faire peser sur vos entreprises. Mais il nous faut avoir conscience que nous sommes aujourd'hui à un tournant. Nous ne pouvons pas ne pas regarder en face la gravité de la situation sanitaire dans ces moments difficiles.
Le préfet de la Réunion micro-Europe 1 de Charles L'Huillier. La Martinique sera également confinée dès demain soir pour une durée minimale de 3 semaines. 4e confinement depuis le début de cette crise sanitaire. Dès 19h, restaurants, salles de sport devront fermer. Les déplacements en journée entre 5h du matin et 19h seront limités et l'accès aux plages ne pourra se faire que de manière dynamique. Une mesure qui n'a pas vraiment surpris la population, Florin Houssou.
Non, car l'explosion du nombre de cas depuis le début des grandes vacances avait déjà mené au retour d'un couvre-feu à 21h, mais visiblement insuffisant. Et c'est bien cela qui irrite Nicolas.
Ça fait quand même 3 fois qu'on le fait, il n'y a pas de résultat. Donc à mon avis, je ne sais pas trop si ça fonctionne bien. Et très chiant, parce que quand on vient voir notre famille et qu'on nous empêche de bouger, forcément c'est compliqué, quoi.
Selon les autorités sanitaires, les principaux foyers de contamination restent les fêtes privées organisées à la maison ou sur la plage. Beaucoup d'ailleurs sont résignés ce soir, à l'image de Marie-France. Elle habite à Fort-de-France.
C'était inévitable de toute manière. Je crois qu'on s'est vraiment, vraiment, vraiment lâché. Les conséquences sont là. Et je pense que c'était inévitable. Maintenant, il faut qu'on assume, il faut que la Martinique assume, c'est tout.
Certains restaurateurs vont continuer à travailler grâce à la vente à emporter, mais pas Christophe, patron d'une crêperie à Rivière-Salée. Un dernier service demain midi et ensuite une seule option.
Vider les frigos, en jeter le moins possible et puis attendre les nouvelles dans 3 semaines, quoi. Je suis blasé en fait, parce que depuis 1 an et demi, c'est trop long, quoi. C'est toujours les mêmes qui prennent, quoi.
Tous ces professionnels touchés par le confinement pourront bénéficier des aides du gouvernement comme le chômage partiel. Partiel bonifié ou encore le fonds de solidarité.
Florin Houssou en Martinique pour Europe 1. En métropole également, la situation est très tendue. Les contaminations s'envolent. La pression hospitalière se fait de plus en plus forte avec désormais plus de 1000 malades graves du Covid traités à l'hôpital dans les services de soins critiques. Dans le Grand Est, la situation est inquiétante. 8 départements sur 10 ont atteint le taux d'incidence de 50 pour 100 000 habitants. C'est ce qu'a fait savoir l'ARS. Les jeunes sont les plus touchés, les contaminations montent en flèche, notamment dans le Bas-Rhin, chez les 20-29 ans. Les raisons de cette flambée avec Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille.
C'est là que le virus circule le plus. Cette population de moins de 50 ans, on va dire, n'a pu commencer à se vacciner qu'à partir du 15 juin. Donc elle n'a pas encore eu le temps d'avoir son process à deux doses. Il faut qu'elle puisse se faire vacciner, bien que la vaccination accélère. Et donc la circulation est forte. Alors là, on n'est pas dans les situations qu'on observe dans les dom-toms. Ouais. Mais en revanche, on est à des seuils qui sont en moyenne aux alentours de 160 d'incidence dans le Bas-Rhin, avec des pics, comme on le voit beaucoup en France, sur les grandes villes. Et Strasbourg a quasiment un taux qui est double de ça d'incidence, d'où l'idée éventuellement de commencer à se préparer à mettre des mesures de restriction.
Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, invité de Thierry Dagiral ce soir sur Europe 1. Dans le monde, ce sont 4 milliards de doses qui ont déjà été injectées. Pour autant, de nombreux pays sont confrontés à une hausse des contaminations. Israël appelle ce soir ses citoyens de plus de 60 ans vaccinés il y a plus de 6 mois à recevoir une troisième dose de vaccin.
Europe 1, le journal de la nuit.
Sophie Tussaud.
Dans l'actualité également, ces chiffres qui inquiètent. Sur les 6 premiers mois de l'année, la délinquance a augmenté de façon spectaculaire en France. Il y a eu depuis janvier davantage de violences dans le pays que durant la crise des Gilets jaunes il y a 2 ans. Les homicides et les atteintes aux personnes ont légèrement augmenté. Et autre tendance qui s'inscrit dans la durée, l'augmentation des faits d'escroquerie et de violences sexuelles, Marion Dubreuil.
Exactement, ce sont les deux indicateurs qui augmentent de manière significative. Les chiffres sont difficiles à comparer avec l'an dernier car la délinquance a subi un coup d'arrêt avec le premier confinement, mais on peut se référer aux 2 premiers trimestres de 2019. Depuis le début de l'année, les services de police et de gendarmerie ont enregistré plus de 200 000 infractions liées à des escroqueries en seulement 6 mois. C'est une hausse de 14% par rapport à la même période en 2019. Cela comprend les faux en écriture publique, la fausse monnaie, mais aussi les abus de confiance et notamment les arnaques à la fausse qualité, de faux policiers, de faux médecins. La crise sanitaire a pu être un tremplin pour certains délinquants avec de nouveaux trafics. Les violences sexuelles ont elles aussi explosé. C'est une tendance qui s'inscrit là aussi dans la durée pour le service statistique du ministère de l'Intérieur. Cela s'explique par la libération de la parole et l'amélioration de l'accueil des victimes en brigade et en commissariat. C'est une hausse de 34% par rapport à 2019, avec près de 35 000 faits de harcèlement et d'agression sexuelle et viol rapportés aux forces de l'ordre en 6 mois, soit environ 200 par jour.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. C'est un procès rarissime qui se tiendra en septembre à Paris. Celui d'un ministre dans l'exercice de ses fonctions, le ministre chargé des PME, Alain Griset, comparaîtra le 22 septembre devant le tribunal correctionnel pour ne pas avoir déclaré tout son patrimoine. Louis de Ragnel, après la mise en examen d'Éric Dupond-Moretti il y a une dizaine de jours pour prise illégale d'intérêt, ça commence à faire beaucoup pour ce gouvernement.
Oui, en fait, la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, créée après l'affaire Cahuzac, a saisi la justice il y a plusieurs mois, le 24 novembre dernier pour être précis. Elle reproche à Alain Griset, entré il y a 1 an au gouvernement, d'avoir omis de déclarer un PEA pour un montant de 171 000 euros. En fait, une partie de cette somme, 131 000 euros, a été confiée par le bureau de la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services du Nord, directement à Alain Griset, qu'il a ensuite placé sur ce fameux PEA personnel. Alors la HATVP estime que le ministre des PME s'est mis dans une situation de confusion des patrimoines, ce qui est illégal. De son côté, l'entourage d'Alain Griset évoque une maladresse vite corrigée, aucune volonté d'enrichissement personnel. L'ancien chauffeur de taxi pendant 30 ans avait par ailleurs remboursé la somme après être entré au gouvernement. L'annonce de cette convocation par la justice intervient seulement 15 jours après la mise en examen d'Éric Dupond-Moretti. Et si la mise en examen du garde des Sceaux n'a pas entraîné son départ du gouvernement, il pourrait en être autrement pour Alain Griset en cas de condamnation.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1. Plusieurs centaines de sans-abri s'apprêtent à dormir cette nuit sur la très chic place des Vosges à Paris après y avoir installé un campement. 330 y sont installés, 400 personnes. Une opération coup de poing organisée par le collectif Réquisition pour dénoncer le mal-logement CNTR.
Oui, ici, des dizaines et des dizaines de tentes sont plantées, agglutinées sur l'herbe, juste à côté des vacanciers. Il y a beaucoup de mineurs isolés, mais aussi beaucoup de familles. Aïcha, par exemple, est assise en tailleur devant sa tente. Elle berce Ami, sa petite fille, née il y a 10 jours. Plus de 9 mois que cette Ivoirienne, son compagnon et leurs enfants n'ont pas eu de logement fixe.
On dort sous les tentes, dans le canal de Saint-Denis, les portes de la Villette et tout. On espère avoir des solutions avec le gouvernement et tout. Parce que vraiment, c'est pas facile avec des enfants. Surtout quand il fait nuit, la fraîcheur, la peur, dans les tentes, c'est pas facile pour nous.
Un droit à un hébergement digne en attendant d'être relogé, c'est ce que demandent les 7 associations présentes sur place. Parmi elles, le collectif Droit au logement, Jean-Baptiste Hérault et son porte-parole.
La France compte 3,1 millions de logements vacants, près d'un million de plus qu'il y a 10 ans. On n'en a jamais compté autant. Et on a une loi, c'est la loi de réquisition, qui prévoit justement, qui permet à l'État de réquisitionner, d'installer des personnes sans abri ou très mal logées dans des logements vacants.
Jean-Baptiste Hérault le répète, ils ne bougeront pas de la place des Vosges tant que ces 400 personnes sans abri ne seront pas prises en charge.
Océane Théard, place des Vosges, à Paris pour Europe 1. Comme chaque année, cette mauvaise nouvelle pour la planète aujourd'hui marque le jour du dépassement. Nous avons épuisé toutes les ressources de la Terre. Un jour qui a lieu cette année, 3 semaines plus tôt que l'année dernière. Selon un rapport du GIEC publié dans les prochains jours, 2 endroits au monde menacent la survie de l'homme en raison du changement climatique. Le premier se situe à Ras Al Khaimah, dans le golfe Persique. L'autre est au Pakistan, où forte chaleur et humidité pourraient tuer un être humain en seulement quelques heures. À Islamabad, Elodie Goulest pour Europe 1.
Des rues désertes et un hôpital pris d'assaut par des patients atteints d'insolation, voilà selon le quotidien The News la routine des habitants de Jacobabad dans le sud du Pakistan. En cause, une chaleur intense et humide qui empêche le corps de transpirer et provoque une surchauffe pouvant entraîner la mort en 6 heures seulement. Pourtant aujourd'hui, près de 200 000 personnes vivent dans cette ville de la province du Sindh. La majorité est pauvre et sans accès à des climatiseurs ou ventilateurs. Si la région est connue pour ses fortes chaleurs, cette nouvelle dénomination de zone inhabitable est préoccupante selon Aisha Chakan, directrice du think tank Société Civile pour le Changement Climatique.
Cette étape a été dépassée des dizaines d'années avant les prévisions de l'impact du changement climatique. Il n'y a donc pas assez de temps pour préparer et anticiper les mesures à prendre. Quand la survie deviendra impossible, j'imagine qu'il y aura une immigration de masse depuis cette région. Et Jacobabad n'est qu'un avant-goût. Il y aura d'autres provinces du Pakistan qui seront affectées elles aussi.
Il s'agira donc de l'un des enjeux de la COP26 en novembre prochain, redistribuer les ressources pour aider les pays en développement en première ligne face au changement climatique. Islamabad, Elodie Goulesk, Europe 1.
On passe au sport à présent avec les Jeux Olympiques. 3 nouvelles médailles pour la France aujourd'hui. 11 médailles en tout pour les Bleus depuis le début de la compétition. Des récompenses en argent remportées en aviron, en judo et au fleuret, des podiums. Mais avec un peu de déception, Julien Froment.
Oui, une déception finalement rapidement évacuée par les athlètes argentés aujourd'hui. Des médailles toutes remportées par des femmes, à commencer en aviron par le 2-2 couple en poids léger, la doublette Claire Beauvais-Laura Tarantola. Eh bien, elles se sont arrachées pour décrocher l'argent à seulement 14 petits centièmes des Italiennes. Mais pas de regret, bien au contraire pour les deux Françaises au micro de Bruno Cuaz.
Bah là, c'est clair que depuis ce matin, on est un peu sur notre nuage. Là, on n'en redescend pas, mais tant mieux, on vit plein de choses merveilleuses, on réalise pas du tout encore ce qui se passe, clairement, mais c'est chouette, c'est que du bonheur et tout roule.
Bah ouais, on n'a pas forcément conscience que l'or est si proche, quoi, et en même temps, bah, on regrette pas l'argent parce que bah, la cinquième place était aussi très très proche.
Et puis en judo, le très beau parcours aussi de Madeleine Malonga qui a dû s'incliner en moins de 78 kilos en finale face à la japonaise Shori Hamada, battue sur ippon par immobilisation. Mais elle peut être satisfaite de son parcours. Elle donne d'ailleurs déjà rendez-vous dans 3 ans à Paris. Enfin, l'argent aussi pour les fleurettistes françaises par équipe. Après une improbable remontada en demi-finale contre l'Italie, elles ont été un peu courtes en finale face à la Russie. Mais cette médaille d'argent, le fleuret féminin tricolore l'attendait depuis les Jeux de Los Angeles en 1984. Ajoutez à cela, Charline Picot en planche à voile, assurée de remporter une médaille samedi, et la France en est à 12 breloques, bien ancrée dans le top 10. Classement dominé par la Chine, le Japon et les États-Unis. Un chiffre qui devrait augmenter demain avec l'entrée en lice du poids lourd du judo français, Teddy Riner, qui visera une 3e médaille d'or olympique consécutive.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1. On passe à la météo et comme prévu, le temps se dégrade ce soir, Marlène Duret.
Oui Sophie, comme prévu, une perturbation est arrivée en Bretagne avec quelques pluies, le vent se renforce aussi et ce temps faiblement pluvieux va traverser donc cette nuit mais aussi demain matin les régions du quart nord-ouest. L'après-midi, ce sont les régions allant du Nord-Aquitaine à la Lorraine en passant par le Limousin et la Bourgogne qui se retrouveront sous cette bande perturbée et à l'avant, eh bien des orages se développent. Alors déjà ce soir, entre les Pyrénées et l'Occitanie puis en Provence en deuxième partie de nuit, de nouveaux orages reprendront dans le sud-ouest ce vendredi matin et gagneront en journée le centre-est du pays, l'ensemble des Alpes également. Le soleil résistera bien vers l'Alsace et sur l'ensemble de la bordure méditerranéenne. Côté température, prévoyez 21 à 25 degrés généralement, du sud-ouest au Benelux, localement 18-20 degrés près de la Manche, 25 à 30 des frontières allemandes à Rhône-Alpes, et toujours 29 à 32 degrés dans le sud-est. Localement, elles peuvent même atteindre les 34 voire 35 degrés dans le Var.
Merci Marlène Duré. À la une de vos journaux demain, tourisme, culture, impasse, terre et manque, titre Libération, hôtel, restaurant, parc. La saison des professionnels de loisirs est fortement touchée par les restrictions sanitaires. Le gouvernement promet qu'il maintiendra ses aides si les musées s'en sortent mieux. La fréquentation des cinémas, elle, a brutalement chuté. L'opinion s'intéresse à l'Afghanistan. La bombe à fragmentation régionale. Le retrait américain suscite l'inquiétude de Kaboul et celle des pays de la région. L'Inde, sur laquelle les États-Unis comptent pour contenir la Chine, est peut-être la plus embarrassée. Le CAC 40, le spectaculaire rebond des géants français, c'est le dossier que vous proposent les Échos. Les grands groupes affichent des performances supérieures aux attentes. L'indice phare de la Bourse de Paris se rapproche des sommets de 2000. Les grandes entreprises s'attaquent à des chantiers stratégiques. Et puis, dans un tout autre registre, tout nu et tout bronzé, presque en une du populaire du centre, nu et décomplexé. Le quotidien régional qui vous propose un dossier sur le naturisme et qui est avant tout une philosophie de vie qui prône des valeurs telles que le respect de soi, des autres et de l'environnement, titre le journal.